Radio Grenouille, 10 minutes avec
la rédaction des 3-8. 10 minutes avec.
10 minutes avec Pascal Henquin de Focus 21 qui va nous présenter le documentaire Irine Tsina, le cri de la génération climat. Un docu qui a besoin du soutien le plus large possible via les méthodes modernes du crowdfunding. Tous les liens sont sur radiogrenouille.com bien sûr. Un documentaire qui revient sur le mouvement Alternatiba qui a traversé le pays de milliers de sourires et d'espoir durant l'année 2015. L'urgence climatique, la COP22 qui approche, le besoin de documenter ces initiatives citoyennes qui dynamisent nos différents territoires. Le documentaire Irine Tsina se veut global et ça ne se fera pas sans nous. C'est parti pour 10 grosses minutes avec notre invité du jour sur Radio Grenouille.
Et ce pari qui est parti d'une toute petite initiative locale et qui est en train de devenir une vague, ce pari, ces milliers de gens, ces centaines de milliers de gens qui sont en train de se mettre en mouvement, d'eux-mêmes qui soulèveront des montagnes encore plus grandes. Et moi, si j'ai une seule chose à retenir de ce week-end à Paris, de ces deux jours vécus ici dans cette place de la République, c'était le sourire sur la tête de tous les gens que j'ai croisés, ces smiles, ces impressions, ces sensations de bonheur. Et là, on voit tout ça, on est en train de gagner, parce que comme disait un ami qui vient de parler juste avant, Patrick Liveret, choisir d'être heureux est un acte de résistance.
Il faut faire, je crois, de ces journées ici l'acte de naissance d'une nouvelle civilisation.
Alors, je suis Pascal Henquin de l'association Focus 21. Voilà. Et je suis le réalisateur du film Irine Tsina avec Sandra Blondel. Alors, Irine Tsina, c'est vrai que c'est un nom complètement imprononçable quand on l'a pas lu, quand on l'a pas écrit. Il faut savoir que le Z se prononce S en basque. Et d'ailleurs, c'est un hommage en fait, cette Irine Tsina, c'est un hommage au basque de Bici avec un Z, mais qui veut dire vivre en basque, et c'est un collectif Bici qui a lancé le premier Alternatiba et toute la dynamique en fait depuis Bayonne en 2013.
Alternatiba qu'on avait croisé du coup, qui s'était arrêté par Marseille.
Alors Alternatiba, c'est toute une dynamique, c'est un mouvement qui est né au Pays Basque et qui a lancé parmi de nombreux projets un tour de France en triplette et en quadruplette de 5600 km qu'ils ont fait l'été dernier en 4 mois, juste avant la COP21. L'idée, c'était pour eux de mobiliser un maximum de monde autour des alternatives et autour du changement climatique.
En délivrant de Bayonne une méthode en accès libre pour monter des villages Alternatiba qui ont poussé dans toute la France, et ça a vraiment eu un gros gros succès ce projet Alternatiba. Ouais.
Alors c'est vrai qu'ils sont revenus en fait de la conférence climat de Copenhague en 2009 en se disant la société civile manque de mobilisation, on va créer cette dynamique. Ils ont lancé l'idée de créer un village des alternatives où on pouvait découvrir un petit peu ce que devrait être le nouveau monde dont on aurait besoin. Ils ont mis en place une méthodologie, et une fois que ce village a eu lieu, cette méthode, ils l'ont écrite et puis ils l'ont diffusée un peu comme un logiciel libre en disant emparez-vous-en et organisez vous-même un village, adaptez-le. Et du coup, après le premier qu'il y a eu en 2013, il y en a eu 5 ou 6 je crois en 2014. Et puis là, depuis 2015-2016, il y en a eu plus de 100, je crois qu'on a 108 ou 110 villages, dont un à Marseille en juin 2015.
Alors du coup, le projet, il me le montre bien que je le prononce bien, Irine Tsina.
Ouais.
Pas mal.
Pas mal,
voilà.
Pas mal.
D'où il est venu, le cri de la génération climat?
Alors pour finir quand même sur l'Irine Tsina, qu'est-ce que c'est? C'est un cri ancestral que poussent les Basques. Quand on fait un peu de recherche sur Internet, on se rend compte que c'est à la fois un cri d'alarme, un cri de joie. C'est un cri de guerre aussi. Pour certains, c'était aussi un cri qui était poussé de colline en colline pour communiquer entre les bergers et autres. Mais, et du coup, on a trouvé que c'était important de rendre cet hommage aux Basques parce que c'est un véritable cri qu'ils ont lancé depuis Bayonne en revenant de Copenhague pour mobiliser justement la société civile.
Et nous, on a entendu parler, en fait, après le premier village Alternatiba qui avait eu lieu donc à Bayonne. Et en tant que documentariste et aussi membre de l'audiovisuel participatif, on s'était réunis avec d'autres homologues au Pays Basque. On a pu les rencontrer à cette occasion. Et on s'est dit, waouh, il y a quelque chose, en effet, à faire avec eux, à raconter. Au départ, on était parti plutôt pour les suivre pendant leur tour de France, en mobilisant justement plein d'autres équipes des médias alternatifs à cette occasion. Et puis au fur et à mesure, on s'est dit non, on va essayer de raconter justement toute leur histoire et d'en faire un documentaire. Et ce documentaire, donc Irene Sina, raconte la naissance du mouvement climatique Alternatiba qu'on a suivi pendant un an et demi, de Bayonne jusqu'à Paris, en passant par les étapes du tour, en passant par le fauchage de chaises dans les banques pour dénoncer les paradis fiscaux, en passant par la mobilisation de la COP21 et sous ambiance état d'urgence, post-attentat, et puis aussi pendant une grosse action de désobéissance civile qui a eu lieu à Pau, où les militants ont bloqué pendant 3 jours les pétroliers pour éviter qu'il pleuve fort, trop profond, plus profond, alors qu'aujourd'hui il faut arrêter de brûler du CO2, de brûler du pétrole, parce qu'on a dépassé toutes les limites.
Vous y étiez du coup à la COP21 à Paris ?
Oui, on a passé plus de 3 semaines en fait à Paris, en immersion avec eux, puisqu'on était dans le QG, dans ce qu'ils appelaient le quartier génial. C'était pendant 3 semaines, on était hébergés dans une salle omnisport de la mairie de Saint-Denis, l'île Saint-Denis. Et on a vécu avec eux les mobilisations, y compris toutes les petites surprises, les interventions, les blocages du siège de la BNP, un concert sauvage dans une banque. Toute la mobilisation aussi citoyenne pour arriver à faire quand même quelque chose le D12 sur le champ de Mars. Et donc les négociations aussi avec le gouvernement, le ministre.
Le D12, c'était le dernier jour de la COP.
C'était le dernier jour de la COP où les citoyens avaient décidé de dire aux gouvernants et au gouvernement non, vous ne ferez pas cet accord sans nous et c'est nous qui aurons le dernier mot. Voilà, donc il y a eu une chaîne humaine qui s'est organisée, les lignes rouges sur les Champs-Élysées, entre Porte-Maillot et Champs-Élysées. Et puis il y a eu aussi un événement qui s'est fait sur le Champ de Mars, qui au départ n'était évidemment pas autorisé par le ministre de l'Intérieur, mais par contre, à force de c'est un bras de fer, les militants ont réussi à organiser quelque chose ce jour-là à Paris, sous la Tour Eiffel, l'emblème aussi de la COP21.
Alors justement, Pascal, ma prochaine question était, donc on parle d'un documentaire qui est en ce moment, du coup on va parler aussi de son financement, quand vous avez commencé à tourner les images, j'imagine que vous vous êtes dit tiens, on va le faire financer, comment, sans doute par un crowdfunding, mais là vous étiez vraiment dans l'instant. Ça, ma première question, ça n'a pas été trop dur de travailler justement, peut-être sans autorisation préalable, justement sur des territoires assez particuliers? Tu rappelais le contexte post-attentat de la COP, mais j'imagine que dans d'autres endroits aussi, vous avez dû un peu y aller les deux pieds devant pour pouvoir prendre vos images et documenter justement ce mouvement qui, on le rappelle, et tout ça, on en avait largement discuté. Par exemple, à Marseille, la mise en place du village Alternatiba avait été aussi assez compliquée par les autorités. Ça n'a pas été trop dur justement de tourner ces images, de pouvoir documenter ce mouvement?
En fait, toute l'histoire est assez dure, mais je pense que ça n'a rien à voir par rapport à ce que le chaos climatique va engendrer au niveau de notre changement de vie. Ce qu'ont fait les Basques, c'est un travail phénoménal, parce qu'ils sont partis à 5-6 personnes de Bayonne. Ils ont lancé ce défi et à la fin, je dirais, pendant la fin de la COP21 ou pendant le VMA, il y avait 50 000 personnes qui étaient réunies à Paris 3 ans ou 4 ans après. Donc c'est hallucinant. Donc nous, après, petite équipe de Focus 21, on a essayé de suivre. Et c'est vrai que c'était épuisant. C'était épuisant de les suivre parce que ça part dans tous les sens. Et puis il fallait arriver à chaque fois au bon endroit, au bon moment, comme tout travail de photographe. Et pour ça, c'est vrai qu'on a mis énormément d'énergie. Tout en plus, on était impliqué fortement dans l'Alternatiba à Marseille. Donc là, c'était la double difficulté.
Mais on ne regrette pas parce qu'on a énormément appris grâce à ce film. On a appris nous-mêmes à gérer ce genre de situation. Le genre de situation où si on se retrouve à filmer dans des endroits où on n'est pas forcément autorisé. Et en effet, on n'est pas journaliste. Donc nous, normalement, un journaliste ne filme pas dans une banque. C'est un lieu privé. En tant que documentariste, on l'a fait. Et au bout d'un moment, on a même été jusqu'au point d'embarquer nous-mêmes aussi des chaises. Parce qu'on devenait actif, quoi. Et ce qui était important aussi, c'est de, comme à Pau, pendant toute l'action de désobéissance civile, c'était une action de désobéissance civile non violente, quand t'es embarqué, tu te fais gazer, etc. C'est comme les autres. Mais tu apprends aussi à discuter, à se poser, en fait, face à l'autorité. J'ai le souvenir des rencontres avec l'autorité, les renseignements généraux à Marseille, où cette personne disait « Non, vous ne me filmez pas. » Donc « Non, on ne la filme pas. » En tout cas, on l'a filmé. On l'a dit « Ok, on vous floutera. » Mais dans ces cas-là, nous, on fait votre boulot. On fait notre boulot, vous faites le vôtre. Et on a entendu, on se respecte entre nous. Et on ne considère plus un flic comme un responsable d'entreprise ou un chef comme un ennemi, mais plutôt comme un adversaire et avec qui il faut discuter. Et ça, c'est tout l'intérêt aussi de ce mouvement. C'est que les militants et nous aussi, on a compris comment se bâtisser une stratégie, comment se créer un mouvement. Et ça, c'est le gros intérêt, je pense, de ce qu'on a réussi à ce qu'on va montrer dans ce film. C'est comment se construit une mobilisation citoyenne. Voilà.
Et justement, j'imagine, on en vient aussi à la partie crowdfunding. Et pourquoi on doit soutenir justement Irine Sina ? C'est ça ? Irine Sina. Pourquoi on doit soutenir Irine Sina ? J'imagine que dans ce documentaire, dans ces innombrables heures de rush que vous devez avoir, etc., que des initiatives citoyennes, vous en avez croisé, mais par milliers, et des toutes plus surprenantes les unes que les autres aussi, j'imagine.
On n'a pas filmé spécifiquement les alternatives, parce que c'est ce qu'on a fait dans d'autres films avant. Par contre, comme je disais, elles sont présentes et on les a rencontrées. Mais là, c'était vraiment l'idée de raconter l'histoire de ce mouvement, de la naissance de ce mouvement. Et ensuite, pour le financement, en effet, on a beaucoup, nous, contribué, je dirais, bénévolement au tournage. On ne s'est pas rémunéré jusqu'à présent, ou très peu. Il y a des défraiements, etc. Mais il n'aurait pas pu avoir lieu ce tournage sans le coup de main que nous ont apporté aussi une vingtaine de médias à travers le territoire ou même de personnes à titre personnel qui sont venues nous aider en faire la deuxième caméra, troisième caméra sur certains mouvements, sur certaines actions. Et on a besoin, nous, de justement, on a fait appel à un financement participatif parce que sortir un film en salle, en cinéma, ça nécessite quand même une trésorerie, ça nécessite un investissement important. On pense que ça vaut vraiment le coup de le faire parce que l'urgence climatique est là. C'est notre engagement à nous. On a mis toute cette énergie là-dedans. Aujourd'hui, on en est déjà quasiment un tiers du financement participatif qui est de 45 000 euros. On a presque récupéré cette somme, enfin un tiers de cette somme au bout de 15 jours. On a jusqu'au 1er décembre pour participer sur le site irinsinalefilm.com. Et cette somme, elle va servir surtout à payer des spécialistes de l'étalonnage, des spécialistes du mixage, des impressions, des affiches, etc. pour que le maximum de gens puissent voir ce film. Et le sortir en salle, c'est important parce que c'est un lieu où, pendant une heure et demie, deux heures moins le quart, les gens vont être face à ces images, vont prendre la mesure de l'urgence climatique. Et après, l'idée, c'est aussi qu'il y ait des militants ou des gens qui sont proches, qui ont participé au mouvement, qui puissent animer les discussions à l'issue de ces projections. Et tout ça, on est en train de le mettre en place, donc avec les membres d'Alternatiba, avec d'autres structures. Et voilà, c'est encore 6 mois de boulot, mais c'est urgent, en fait. C'est urgent. Nous, la prise de conscience par rapport à l'urgence climatique, on l'a eue il y a 2 ans. Et grâce à eux, en fait, grâce à eux, on avait compris l'intérêt des alternatives, mais on n'avait pas fait le lien entre le changement climatique et les alternatives. Et ce chapeau commun qu'a le climat, Il nous réunit tous. Il nous réunit tous, les médias indépendants, les médias alternatifs, pour qui prenons d'autres manières de voir la société et de faire société même. Il nous réunit aussi par les circuits courts. Il nous réunit par tout ça, c'est sous le même chapeau du climat. Aujourd'hui, on n'a plus le choix, en fait. Sinon, ça va être catastrophique.
On peut espérer le même succès ou que la même façon que les gens sont dans le parc, un film comme le film de Ruffin et de la team Fakir de Merci Patron, on peut espérer que le film, justement, avec le réseau en plus Alternatiba, qui est construit, qui est solide avec, et qui est motivé surtout, on peut espérer le même succès pour Erin Sina. Merci Pascal, en tout cas.
Merci Simon, à bientôt.
Et on rappellera évidemment toutes les coordonnées pour le crowdfunding, pour soutenir tout ça. Merci beaucoup.
L'épopée, j'allais dire, Alternatiba, voilà, cette idée d'alternative, de construction, de création, d'autre chose, et d'y aller, quoi, de pas attendre. C'est du concret, c'est porté par des gens un peu tarés, ça me plaît, mais clairement très sérieux dans ce qu'ils font, dans leurs affaires et dans la manière de porter leurs combats, nos combats. C'est compliqué parce que voilà, tu as affaire à face à des mastodontes, quoi. C'est les grosses multinationales, voilà, c'est ceux qui ont le 06 du président. Et d'aller titiller ça, d'aller bousculer ça en marge de la COP21 comme ils l'ont fait à l'automne dernier, c'était juste extraordinaire. Moi, quand ils m'ont dit, voilà, on a bien, ça te dit de faire quelques petites conneries avec nous, j'étais heureux d'aller faire un concert à la BNP, voilà, la banque qui nique la planète, mais c'était juste énorme. Moi, j'aime cette histoire, j'en fais un petit peu partie et j'en suis heureux et honoré. Et donc voilà, évidemment, je soutiens ce film et j'ai hâte de le voir.
C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants, y'a pas à dire, ça peut aider, d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil...
La rédaction des 3-8, 10 minutes avec...